France Inter.
Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, un conflit qui s'éternise dans l'indifférence générale. France Inter est en République démocratique du Congo avec les civils pris au piège de la guerre dans l'Est en plein chaos. Reportage dans un instant. Quatre humanitaires étrangers tués à Gaza dans une frappe de l'armée israélienne, dénonce leur association. C'est la première fois depuis le début de la guerre. Nous sommes à Jérusalem avec notre correspondant.
Et à 8h20, le grand entretien de la matinale. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Qui est notre invité ce matin?
Il est un des rares artistes à avoir une parole forte et engagée sur les tourments du monde, sur le 7 octobre, sur la guerre au Proche-Orient. Le directeur du Théâtre National de la Colline, l'un des plus grands metteurs en scène et auteurs de théâtre de notre époque, Wajdi Mouawad, est notre invité à 8h20.
Et vos questions, 01 45 24 7000.
Une grève dans la logistique, les salariés des entrepôts de livraison réclament de meilleurs salaires à des organisations patronales qui leur proposent le SMIC et pas plus au bas de l'échelle. Dans ce journal aussi, les inondations en Bourgogne et ses locataires d'un gîte élitreillé in extremis hier. Une visite de la forge qui fabrique presque toutes les lames de, l'escrime olympique. Et puis des inédits de Marvin Gaye retrouvés en Belgique.
France Inter.
Voici donc une région où les guerres se succèdent depuis 30 ans, où les déplacés se comptent en millions, comme les morts des combats, des massacres, du choléra et de la faim. Nous sommes ce matin dans la région du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. L'armée régulière y affronte la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, sur fond de pillage des ressources minières. Les combats se rapprochent de Goma, la capitale régionale, où les civils affluent pour fuir les combats. Reportage en plein chaos. Signé Claude Guibal.
On va regarder la plaie.
Il est allongé sur le lit, les yeux figés, des bandages sur tout le corps. Les éclats d'obus lui ont traversé les reins et arraché la main. À l'hôpital Ndosho, on n'a jamais vu un tel afflux de blessés. Sidi Bé est le chirurgien en chef de l'équipe de la Croix-Rouge internationale.
Avant, on avait des blessures par balles. Là, on parle des obus, des mines anti-chars. C'est des blessures très graves.
Il y a quelques jours, l'équipe a dû amputer un bébé de 3 mois, la jambe déchiquetée par une explosion. La guerre, on l'entend d'ici. Les combats font rage à Sake, le verrou de Goma, à 20 km de la capitale du Nord Kivu. Tous les accès sont désormais bloqués, les camps de réfugiés sont saturés, les campements sauvages se multiplient. 1,5 million de personnes sont à la dérive. Partout, les mêmes histoires, partout les mêmes yeux sidérés, partout la faim, la même terreur, celle que l'on lit dans le regard d'Espérance qui vit dans le camp de Bulango.
Sur la route, j'ai perdu 2 de mes enfants et aussi mon mari. Au bout de 2 mois, j'ai appris que mon mari avait été tué, mais je n'ai jamais retrouvé mes enfants. Cela fait 2 ans que je n'ai aucune nouvelle d'eux.
Tout manque. La nourriture, la sécurité pour les femmes, obligées de sortir en forêt pour chercher du bois, c'est l'enfer du viol que 80% d'entre elles ont subi à plusieurs reprises. Les rebelles sont sur les flancs du Nyiragongo, le gigantesque volcan qui domine la ville. Goma qui pourtant continue à vivre comme sourde au fracas de la guerre.
Reportage Claude Guibal avec Éric Audra. La guerre en République démocratique du Congo, ce sera le sujet d'un jour dans le monde ce soir, avec une interview exceptionnelle du président de la RDC, Félix Tshisekedi. Au Sénégal, c'est jour d'investiture aujourd'hui. Bassirou Diomaye Faye, nouveau président de gauche, va prêter serment et devenir à 44 ans le plus jeune chef d'État du pays depuis l'indépendance. Est-ce une bavure de l'armée israélienne à Gaza? Pour la première fois, des humanitaires étrangers ont été tués hier au cours d'une frappe sur leur convoi. 7 morts, dont 4 ressortissants australiens, polonais, britanniques et canadiens. Ils travaillaient pour l'ONG World Central Kitchen, qui œuvre pour l'aide alimentaire à Gaza depuis le début de la guerre. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Florence, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Jérusalem. Que s'est-il passé Thibault?
Eh bien, pour le patron de l'ONG World Central Kitchen, la responsabilité de l'aviation israélienne ne fait aucun doute. José Andrés dit avoir le cœur brisé et affirme donc, sans attendre la confirmation de l'armée, que 7 de ses employés ont été victimes d'une frappe. Ils circulaient dans un convoi composé de 2 voitures blindées et d'un 3e véhicule dans une zone relativement calme autour de la ville de Deir al-Balah. C'est au centre de la bande de Gaza. Ils venaient de quitter un entrepôt où était stockée de la nourriture. L'armée israélienne dit avoir ouvert une enquête et elle devrait, comme elle en a l'habitude dans ce type de circonstances dramatiques, communiquer assez rapidement. La Maison Blanche, par la voix de la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, reprend tel quel les mots du patron de Wall Central Kitchen. Elle dit aussi avoir le cœur brisé et être profondément troublée par la frappe. Le Premier ministre australien demande à ce que les responsables rendent des comptes. Pas de réaction pour le moment des autres chancelleries concernées, ni du côté du Quai d'Orsay. Ce drame, Florence, touche une des ONG les plus importantes à Gaza. World Central Kitchen distribue des repas depuis des mois dans une soixantaine de cuisines d'urgence installées dans l'enclave. Ce matin, ses dirigeants annoncent suspendre leurs opérations, laissant l'ONU, selon l'ONU, plus d'un million de Gazaouis en proie à la famine.
Thibault Lefebvre, correspondant de France Inter à Jérusalem, l'autre frappe israélienne dont on parle depuis hier a visé la section consulaire de l'ambassade d'Iran à Damas en Syrie. Le raid a fait 11 morts, dont 7 gardiens de la révolution iranien avec leur chef. Téhéran a promis de riposter à ce raid sans précédent.
Il est 8h06 en France, Florence. Les petites mains de la livraison sont appelées à la grève.
Salariés des entrepôts du secteur de la logistique qui livrent nos colis ou encore les marchandises des supermarchés, distribution de tracts et blocage de plateformes sont prévus dès ce matin un peu partout en France. Dans les entreprises ID Logistics, Geodis ou XPO, à l'appel de la CFDT pour mettre la pression. Camille Marigot, à quelques jours d'une nouvelle réunion de négociation annuelle sur les salaires.
Les organisations patronales proposent 1,13% d'augmentation, juste de quoi faire remonter les premiers salaires de grille au niveau du SMIC, soit la majorité des employés d'entrepôt.
Entre guillemets, on est les gueules noires quoi, de l'époque d'Émile Zola.
Moustapha Zoufir, délégué CFDT de l'Union Fédérale Route, chargé de la logistique.
Pour un préparateur de commande, il faut faire minimum 160 colis de l'heure. Tout ce qui est au-delà, on lui donne un peu d'argent, une prime de productivité. S'ils veulent améliorer la rémunération, ils vont courir toute la journée pendant 7-8 heures pour pouvoir grappiller quelques euros de plus à la fin de la journée. Là. On sait qu'à la fin du mois, on n'aura que le SMIC sinon.
La CFDT propose plutôt entre 3,5 et 5% d'augmentation, alors que le secteur en première ligne pendant la pandémie de Covid va de nouveau l'être à l'occasion des Jeux Olympiques. Patrick Blaise, secrétaire général de l'Union Fédérale Route, FGTE-CFDT.
Quand ces grands groupes sous-traitent, les petits sous-traitants derrière eux n'appliquent que la convention collective, donc rémunération plus bas, pas de 13e mois, puis avec utilisation d'énormément d'intérim, parce que de toute façon, les salariés, au bout du bout, eh bien, ils n'en trouvent pas.
La logistique est par ailleurs très exposée aux accidents du travail. Les syndicats réclament donc aussi une meilleure prise en compte de la pénibilité, un moindre mal, selon eux, pour un secteur qui représente 10% du PIB.
Autre grève ce mardi à l'éducation nationale pour les salaires et contre la réforme du collège, en particulier les groupes de niveau en français et en maths à partir de l'an prochain. Même si la ministre Nicole Belloubet ne parle plus désormais que de groupes tout court, les syndicats dénoncent un tri des élèves. Deux cours d'eau en rouge sur la carte de Vigicru, tous les deux en Bourgogne. Le pic de la crue de l'Armançon qui traverse Lyon est attendu en fin de matinée à Tonnerre. En Haute-Saône, c'est Larroux qui est en crue majeure. Vigilance maximale dans les deux départements. La Côte d'Or est repassée en orange. Hier, une quinzaine de locataires d'un gîte ont dû être élitreillés. Évacuation express face à la montée des eaux de l'Armançon et de la Brenne à Buffon. Comme le raconte Antoine, le propriétaire, son gîte se trouve à l'endroit où les deux rivières se séparent.
On a pris les airs, ça a mis un petit moment, parce que un par un, et le temps que l'hélicoptère puisse retourner sur Dijon, faire le plein, on a dû patienter un long moment sur place, mais vraiment, on a eu une équipe extraordinaire pour nous mettre en sécurité. Et en une heure, la rivière est montée très très vite, et le temps de réveiller les gens dans les habitations, de dégager les voitures, etc., on a été tous surpris par les eaux. Et moi, j'ai pu retourner sur aider toute ma famille et nos voyageurs sur place. Donc, on s'est mouillé en revenant du travail pour aller les rejoindre et essayer de sauver le maximum de choses. Mais là, nos trois maisons sont sous l'eau. Et on ne sait pas encore ce qu'on va retrouver dans quelques jours.
Témoignage recueilli par France Bleu Bourgogne et puis après Chinon en Indre-et-Loire. Ce week-end, une autre ville viticole est menacée par la montée des eaux. C'est Chablis dans l'Yonne qui pourrait être touchée en fin de journée. Une conférence des solutions pour plus de bio en restauration collective. Elle a lieu aujourd'hui au ministère de l'Agriculture. Comme promis, pendant la crise de la profession, il s'agit notamment de faire respecter la loi Egalim qui impose 50% d'approvisionnement en produits durables, dont 20% de bio. Des spots de pub pubs pour lutter contre les clichés. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Pour l'occasion, le gouvernement a financé 3 vidéos diffusées à la télé. Exemple concret, Hugo Siou, incarné par des proches concernés par le sujet.
On m'a dit que mon fils était autiste parce que je l'aimais trop.
On a nié l'autisme d'Arthur et on m'a affirmé qu'il avait des problèmes parce que j'avais repris le travail.
Moi, au contraire, on m'a dit que mes enfants étaient autistes parce que je ne suis pas retournée au travail.
C'est ce genre de cliché que ces familles dénoncent dans le premier spot du gouvernement. Dans un autre, Elise Moon joue le rôle du caissier et accepte de baisser la lumière de son magasin pour soulager un client atteint d'autisme. L'acteur connaît bien le sujet.
J'ai un enfant qui est Asperger, donc il est un peu différent. Donc je me sens un peu concernée par ce problème, parce que ça peut être un problème. C'est chouette de mettre en avant les différences.
Ces 3 vidéos ont été écrites et interprétées exclusivement par des personnes ayant un lien familial avec une personne autiste. Pour la ministre des personnes âgées et handicapées, Fadila Khattabi, c'est une des forces de la campagne.
On donne la parole aux personnes elles-mêmes, aux familles, et donc elles nous délivrent un message qui est juste. Donc là, c'est une démarche tout à fait innovante et que je salue.
La diffusion de ces 3 clips n'est que le début d'une plus vaste campagne pour les droits et l'accompagnement des personnes autistes. Étienne Pau est le délégué ministériel chargé du dossier.
D'ici 5 ans, on peut radicalement changer les choses. Je vais vous dire, moi, mon enjeu est de sensibiliser tout le monde. C'est que demain, un chirurgien orthopédique, un dentiste, ils ont une personne avec un trouble du neurodéveloppement en face d'eux, ils sachent quoi faire.
Le gouvernement projette aussi de faire diffuser les clips en ville sur les affichages publics.
Et l'humoriste Paul Mirabel, concerné avec son frère, a aussi participé à cette campagne. Voter en Nouvelle-Calédonie, y compris quand on n'y est pas né, c'est la réforme du corps électoral, projet de loi constitutionnelle présenté au Sénat aujourd'hui, en pleine crise économique et politique dans l'archipel. Il est question de réautoriser les habitants résidents depuis plus de 10 ans à voter. Les indépendantistes s'y opposent.
Il est 8h12, le plein s'il vous plaît.
Dans les stations-service, ça n'était plus une demande depuis la disparition des pompistes dans les années 80. Ils ont fait leur retour chez Total depuis 3 ans. Pas partout, évidemment, mais dans les stations en question, tout le monde y trouve son compte. Illustration à Drancy, en Seine-Saint-Denis, avec Ajra Mohamed.
Casquette sur la tête, gilet orange, fluo sur le dos et talkie-walkie à la main.
Ahmed, libère-moi la 2, s'il te plaît.
Mohamed Diakité jongle entre les pompes sur les pistes de cette station essence en plein cœur de ville où les clients ne tarissent pas d'éloge sur lui.
Mais c'est le meilleur.
Momo, c'est la star, Momo. Quand il est là, c'est encore mieux, c'est agréable.
Tous sont conquis par ce nouveau service gratuit.
Quand on est pressé, etc., on a juste à régler et le plein, il se met tout seul. On se sent privilégié.
En 95, hein, madame.
Ouais, 95, E10, 15 euros s'il vous plaît.
15 euros.
Ah oui, c'est de luxe. Nous, ça ne lit pas les mains. En plus, ça fait des emplois.
Un emploi, Mohamed Diakité en cherchait un depuis plus d'un an quand il a décroché celui-ci. Il est payé 1800 euros brut par mois, les pourboires sont interdits et ses missions ne se limitent pas à faire le plein.
Vous voyez la piste comment c'est propre, c'est grâce à moi. Je m'occupe du lavage, je m'occupe des gaz, des fois je fais des ventes en boutique, donc il y a tout ça. C'est un métier qui me plaît, je parle avec les gens, on papote, j'ai toujours aimé ça.
Et depuis qu'il est arrivé, cette station de Drancy a vu son chiffre d'affaires augmenter. Le gérant, Xavier Pierre.
Le client, en allant payer, en attendant que Momo fasse le plein, il peut se rendre compte que lui manquait par exemple un liquide de refroidissement, un lave-glace, il y aura de la vente additionnelle.
D'ici la fin de l'année, Total Energy prévoit de déployer 300 pompistes dans ses stations à travers toute la France.
Reportage Ajra Mohamed. Et maintenant, on vous emmène dans une forge, pas n'importe laquelle, puisque la forge Blaise Frère, près de Saint-Étienne, fournit 90% des lames de l'escrime aux Jeux Olympiques. Sa renommée est internationale, fondée en 1885. L'usine, à 4 mois des Jeux, tourne, on l'imagine, à plein régime. Visite guidée avec Clara Lecoq-Réal.
Et c'est Bruno Blaise qui nous accueille, responsable de production dans ce qui s'apparente à sa deuxième maison.
J'ai toujours baigné là-dedans. C'est mon arrière-grand-père qui est à l'origine de l'entreprise.
Jusqu'à devenir leader sur le marché.
Ouais, c'est aux alentours de 12-13 000 lames par mois. On en voit sur tous les continents. Hein.
Car le savoir-faire est inimitable. Il faut une 50aine d'étapes pour fabriquer une lame d'épée.
L'origine de la lame, c'est ce petit lopin.
Un cylindre d'une 20aine de centimètres est tiré sous l'effet de la chaleur pour en faire une tige de plus d'un mètre. Elle est ensuite martelée, puis dressée à la main pour la rendre parfaitement rectiligne.
Marteau, enclume et l'œil.
Le dresseur, ce jour-là, c'est David, en pleine reconversion.
Moi, je suis policier à la base. Je cherchais un travail manuel, c'est un peu comme du tir. Hein. Au final, on a l'œil avec la cible, et puis ça doit faire une ligne droite, quoi.
À côté de lui, Bruno Blaise sourit.
C'est les anciens qui forment les derniers venus. C'est une vraie pouponnière, là, maintenant.
La forge emploie aujourd'hui 26 personnes qui travaillent à plein régime. Gilles Martinage, l'armurier de l'équipe de France d'escrime, le confirme.
Avec les Jeux Olympiques bientôt, où tout le monde veut renouveler son parc de lames pour partir sur des lames les plus performantes possibles, il y a une quasi rupture de stock.
Mais Gilles a de la chance. L'équipe de France est la seule qui peut commander ses lames directement à la forge. Les autres nations doivent passer par des revendeurs.
Clara Lecoq-Réal à la forge. Lyon-Valenciennes, première demi-finale de la Coupe de France. Et ce soir, les Lyonnais reçoivent des nordistes derniers de la Ligue 2. Enfin, on croyait tout connaître de Marvin Gaye, le prince de la soul. Comment il vécu ses 25 albums? Comment il est mort, tué par son père? On en voulait encore. Nous voilà servis. Pierre Benazet avec ses inédits découverts en Belgique où Marvin Gaye avait résidé en 1981.
Ce qu'on entend là, c'est Marvin Gaye en train d'enregistrer une chanson en Belgique. Depuis 1981, personne n'avait entendu cette mélodie. Cette année-là, le prince de la soul a vécu 6 mois à Ostende. C'est d'ailleurs en Belgique qu'il a enregistré un de ses titres les plus connus, Sexual Healing. Mais apparemment, Marvin Gaye avait fait bien d'autres essais de composition musicale. Est-ce que ça enregistre ? Demande Marvin Gaye. Heureusement, parce que sinon, je ne m'en souviendrai jamais. En quittant la Belgique, il aurait dit à ses hôtes : « Je vous laisse tout ça, faites-en ce que vous voulez. » Tout ça, ce sont divers costumes de scène, quelques carnets de notes et des dizaines de cassettes audio. 38 contiennent des enregistrements avec sa voix. Et les heureux détenteurs de ces cassettes aimeraient maintenant que ces mélodies puissent devenir de nouveaux titres de Marvin Gaye. Mais un casse-tête juridique va se poser. Selon la loi belge, au bout de 30 ans, celui qui détient un objet en devient propriétaire. Cette loi ne vaut pas pour la propriété intellectuelle. Pour espérer entendre un jour un peu plus que ces quelques secondes d'enregistrement, il faudra que ceux qui les détiennent trouvent un accord avec les héritiers de Marvin Gaye. Pierre Benazet, France Inter, à Bruxelles.
On a 38 cassettes, on l'attend avec impatience, cet
vraiment,
accord.
Ouais. Merci Florence Paracuelos. Ancien footballeur, champion du monde, Bichent Lizarazu raconte sa passion pour le sport dans un livre à paraître demain chez Flammarion. Il est l'invité de Léa Salamé tout à l'heure, à 9h20. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Et une nouvelle perturbation arrive par le nord-ouest.
Oui Nicolas, mais heureusement avec un renforcement de l'anticyclone, ça va limiter la descente des pluies qu'on retrouve donc ce matin de la Bretagne à la Vendée avec du vent et quelques averses sur les pays de la Loire. Et puis sur les régions de l'Est, on va retrouver encore un petit peu ce ciel de traîne donnant quelques averses des Hauts-de-France au nord-est à la Franche-Comté jusqu'à la région Rhône-Alpes avec quelques flocons sur les Savoie avec 2 départements. En vigilance rouge, crue inondation qui concerne donc Lyon et la Saône-et-Loire. En orange, la Côte d'Or auquel s'ajoutent la Nièvre et l'Aube. Et puis sur l'ouest, on a les départements toujours des Charentes à la Gironde, à la Dordogne et l'Indre-et-Loire en vigilance. Partout ailleurs, c'est calme avec un ciel encore nuageux quand même. Mais profitez-en avant cet après-midi. Puis c'est bien ensoleillé sur les Pyrénées jusqu'à la Méditerranée et la Corse. Sous des valeurs assez contrastées, c'est descendu à 1 degré dans le Gard et dans le Vaucluse alors qu'il fait 11 à Antibes et Ajaccio.
À surveiller cet après-midi. Midi, oui. La nouvelle perturbation.
Oui, parce que vraiment, on va avoir en fin de journée de forts cumuls, même si la perturbation va remonter vers le nord en passant par l'Île-de-France et la Normandie. Les dernières averses vont s'évacuer par les frontières de l'Est en journée. En revanche, le temps restera sec sur la moitié sud, où le ciel est voilé, mais encore bien ensoleillé sur le quart sud-est et la Corse, sous le vent toujours. Et cet après-midi, ça commence à monter. Dans le sud-ouest, on va atteindre les 20 dans la région toulousaine, 21 à Bastia, mais 12 à Perros-Guirec. Il fera 14 à Metz, 15 à Paris, 17 à Péri. Comptez 18 à Grenoble, 20 à Campagne-sur-l'Aude, en se rappelant le poète Khalil Gibran. Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit.
Mais les nôtres sont courtes. Merci Marie-Pierre. Il est 8h19.